Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 27 mars 2025. Aujourd'hui, on va parler d'une amende que Bercy vient d'effacer pour Bolloré et sa filiale. On va parler de loi du travail en Floride où les enfants, les jeunes sont de nouveau invités à travailler face à la pénurie de main-d'œuvre liée au durcissement des lois anti-immigration, des incendies en Corée du Sud, une activation à distance des appareils électroniques en France possible maintenant dans les cas d'enquête sur le narcotrafic. Et on va parler de pollution au PFAS avec l'annonce de la fermeture d'une usine chimique, c'est dans l'Oise, à Chémour. Également aussi des plaintes des riverains de Fos-sur-Mer face à la pollution dont ils sont victimes. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Avant tout cela, une petite brève qui fait suite à une actu dont je vous ai parlé la semaine dernière concernant ce militant antifasciste albanais qu'on appelle Gino. Son nom c'est Rexinho Abazage. Il était incarcéré à la prison de Fresnes à Paris depuis novembre 2024 en attente d'une potentielle extradition vers la Hongrie. Celle-ci a en effet émis un mandat d'arrêt européen contre lui. Donc les autorités hongroises voulaient que ce militant soit expatrié en Hongrie pour le juger. Elle l'accuse ainsi qu'une quinzaine d'autres militants antifascistes d'avoir agressé des militants néo-nazis. Ça se passait en marge d'une manifestation à Budapest, manifestation antifasciste, en février 2023, face à un rassemblement donc néo-nazi. Eh bien, hier, le mercredi 26 mars, la Cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de ce militant dans l'attente de sa prochaine audience. Et c'est le 9 avril que la justice rendra son délibéré au sujet de son extradition ou non vers la Hongrie. D'autres militants et militantes antifascistes ont aussi été incarcérés en Hongrie, d'ailleurs dans le cadre de la même affaire, ont attesté depuis de conditions de détention inhumaines et de pratiques dites de torture blanche. Bercy efface 320 millions d'euros d'amende et offre un cadeau fiscal géant à Bolloré. C'est une amende de 320 millions d'euros que devait payer le groupe Vivendi. Eh bien, elle vient d'être effacée par Bercy, sans aucune explication officielle à cette heure. La révélation a été faite hier dans les colonnes du Canard enchaîné. Elle a provoqué une tempête politique, notamment dans les rangs de la France insoumise qui crie au passe-droit. L'affaire en question, elle remonte à une vingtaine d'années, en 2004. Cette année-là, donc Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, revend pour environ 5 milliards d'euros d'actions en bourse. Donc, l'entreprise choisit de les comptabiliser comme des titres de portefeuille. Ce sont des actifs qui sont normalement destinés à être revendus à court terme, plutôt que comme titres de participation. Et ça serait normalement le statut pour ces gains qui s'appliquerait à des actions détenues dans une logique durable pour contrôler ou influencer une entreprise. Eh bien, le fait d'avoir choisi cette écriture comptable, ce n'était pas anodin, puisque en choisissant donc de les comptabiliser comme des titres de portefeuille, je rappelle qu'on parle quand même de 5 milliards d'euros d'actions, Vivendi évite ainsi certaines obligations fiscales à l'époque. Selon cet article donc du Canard, ça aurait permis au groupe de réduire de environ 800 millions d'euros ses futurs impôts. La manœuvre a été jugée suffisamment grave pour entraîner un redressement fiscal de 2,4 milliards d'euros et une amende de 320 millions à l'époque. Mais plutôt que de parler de fraude fiscale, le fisc vient de retenir une erreur délibérée, plutôt qu'une fraude. Et c'est pareil, on joue sur les mots, mais ce terme est moins lourd juridiquement. Il réduit en effet les sanctions encourues. Et contre toute attente, eh bien, la demande de 320 millions d'euros a finalement été annulée. Tout ça sans que le ministère de l'économie ou celui des comptes publics n'en donne la moindre justification. Le Canard Enchaîné précise d'ailleurs que le Conseil d'État, qui a été saisi dans cette affaire, a estimé lui aussi que le groupe Bolloré maîtrisait parfaitement la législation fiscale. Autrement dit, que là où on a parlé d'erreur délibérée, ce n'en était pas probablement une. Et puis, une erreur délibérée, à quel moment est-ce que c'est différent d'une fraude ? Là, on est vraiment dans des débats sémantiques. En tout cas, dans la foulée de ces révélations, les députés insoumis se sont insurgés contre ce qu'ils considèrent comme un privilège accordé à un grand patron. Sur X, le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, s'interrogeait « Qui a pris cette décision à Bercy de passer l'éponge ?» tandis que le député Antoine Léaumont parlait, lui, de « scandale d'État ».
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
On part en Floride où on manque de main-d'œuvre à cause de la chasse aux immigrés. Eh bien, l'État du sud des États-Unis envisage le travail de nuit pour les enfants dans une nouvelle loi. C'est un projet de loi pour l'instant. Il vise à permettre aux jeunes, à partir de 14 ans, de travailler la nuit après leur journée d'école. Ce projet vient d'être présenté au Parlement de l'État du sud-est américain aux mains du gouverneur républicain Ron DeSantis. Ce texte viserait à permettre à des jeunes âgés d'au moins 14 ans de travailler la nuit après leur journée d'école. Actuellement, dans cet état, la loi leur interdit de travailler avant 6h30 du matin ou après 23h. Eh bien, avec ce projet de loi, s'il devait être voté, il devrait passer d'abord par deux autres commissions compétentes déjà. Eh bien, si c'était voté, donc ça serait possible pour ces jeunes de travailler. Une loi qui a été votée en 2023 oblige les employeurs d'entreprises de plus de 25 salariés en Floride à vérifier d'ailleurs si leurs employés sont légalement présents sur le territoire. Ça, c'est pour la partie immigration. Les employeurs qui ne respectaient pas la loi s'exposent à des amendes de 1 000 $ par jour jusqu'à ce qu'ils fournissent la preuve que leurs employés sont des citoyens légaux. Ça, c'était la lutte contre l'immigration et le travail clandestin. Eh bien, vu que la nouvelle administration Trump a décidé de faire appliquer ces règles de manière assez impartial, et ce, bah, visiblement, contrairement à la réalité du travail sur le terrain, qui est fourni en effet énormément par des sans-papiers, eh bien, le gouverneur DeSantis a expliqué que oui, des personnes sont parties de l'État à cause de ces règles. Mais il a quand même tout de suite rétorqué « Pourquoi dire que nous avons besoin d'importer des étrangers ?» Et il a rappelé donc qu'au bon vieux temps, eh bien, les petits boulots dans les stations balnéaires de Floride étaient autrefois occupés par des adolescents ou des étudiants, selon lui. Ces dernières années, l'État de Floride a déjà assoupli les règles qui encadrent le travail des enfants, puisqu'en 2024, une nouvelle loi a autorisé les adolescents de 16 ou 17 ans scolarisés à domicile à travailler à n'importe quelle heure de la journée. Selon les statistiques du ministère américain du Travail, le nombre d'infractions liées au travail des enfants en Floride a presque triplé au cours des dernières années. Et à titre de comparaison, en France, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, sauf certains jobs d'été à partir de 14 ans, et ce seulement si les missions ne dépassent pas la moitié de la période des vacances scolaires. La Corée du Sud est en ce moment en proie aux flammes, des incendies les plus destructeurs de son histoire. Ils ont ravagé déjà plus de 35 000 hectares de forêt. On est au sud-est du pays et ça dure depuis samedi. 27 personnes sont déjà décédées dans les flammes. À cause du réchauffement climatique notamment, le nombre d'incendies dans cette zone a plus que doublé cette année par rapport à l'année dernière. Les feux sont toujours en cours, hein, ils ravagent le sud-est de la Corée du Sud depuis ce samedi. Ce sont les plus destructeurs enregistrés dans le pays, ont expliqué les autorités ce jeudi. Et en plus de consommer davantage de forêt que n'importe quel autre incendie, les flammes, je vous le disais, ont tué 27 personnes. Plus d'une dizaine d'incendies se sont déclarés au cours du week-end qui coupaient, en coupant les routes et les lignes de communication. 27 000 personnes ont été forcées à évacuer d'urgence. 32 personnes ont également été blessées, annonçait le ministère coréen de l'Intérieur. L'incendie se propage rapidement, déclare le chef de la division des catastrophes et de la sécurité. Ces feux de forêt contre lesquels luttent les pompiers ont ravagé 36 000 hectares, soit plus que les incendies de l'année 2000, qui étaient jusqu'alors les plus violents de leur histoire. En plus des milliers de pompiers déployés sur place, des centaines de soldats ont été mobilisés et l'armée américaine fournit un soutien par hélicoptère depuis ses bases militaires du sud du pays. La plupart des personnes qui sont mortes dans les flammes étaient des résidents locaux. Au moins 3 pompiers et un pilote d'hélicoptère engagés dans l'opération de lutte contre les incendies sont morts également. Et pour les autorités, l'évolution du régime des vents et le temps sec ont révélé les limites des méthodes conventionnelles de lutte contre les incendies. Cette catastrophe, qui est donc d'une ampleur sans précédent, révèle une fois de plus la dure réalité d'une crise climatique sans précédent, a souligné le chef de la division des catastrophes et de la sécurité du pays. Et il a relevé que les zones touchées n'avaient reçu cette saison que la moitié des pluies, des précipitations habituelles. Cela dit, des précipitations sont prévues aujourd'hui en fin de journée, ce qui pourrait permettre aux soldats du feu de venir à bout de ces incendies. L'année dernière, 2024, a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, mais aussi en Corée du Sud, avec une température annuelle moyenne de 14,5 degrés Celsius. C'est 2 degrés de plus que sur la moyenne des 30 années précédentes. Et le nombre d'incendies dans le sud de ce pays a plus que doublé cette année par rapport à l'année dernière. S'y ajoute l'impact de la crise démographique que subit la Corée du Sud avec un vieillissement de sa population. Cela a été mis en évidence au cours de cet incendie. Le pays est une société qu'on dit super âgée, avec un des taux de natalité les plus bas du monde. Il est inquiétant de constater que de nombreuses victimes sont des personnes âgées, notamment des patients d'hôpitaux qui reçoivent des soins gériatriques, a fait état le président par intérim Han Duk-so. En France, des députés viennent d'approuver l'activation à distance d'appareils électroniques dans le cadre de surveillance du narcotrafic. L'Assemblée a voté pour sur divers amendements qui vont durcir ce texte qui vise à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, et ce malgré l'opposition de la gauche. Les députés ont approuvé donc ce lundi des dispositions du texte pour lutter contre le narcotrafic, ce qui permettra aux enquêteurs d'activer à distance des objets connectés, appareils électroniques ou téléphones, afin d'écouter et de filmer à leur insu les personnes visées. Ces dispositions avaient d'abord été supprimées en commission des lois, c'était en 2023, puisque les opposants à ces dispositions rappelaient qu'un tel dispositif, qui était prévu dans le grand projet de loi sur la justice de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, avait été censuré à l'époque par le Conseil constitutionnel. Le rapporteur du texte, Vincent Cor, pour le groupe Ensemble pour la République, a fait valoir donc ce lundi que la rédaction du texte tenait compte de la jurisprudence et se limitait justement pour aux appareils électroniques et limitait la technique au plus haut du spectre, en termes de criminalité organisée. Donc sous-entendu, ça ne sera que pour les gros cas. S'agissant des appareils mobiles, elle sera cantonnée notamment aux infractions les plus graves et pour une durée limitée, en excluant certaines professions. Plus tôt lundi, les députés avaient rétabli d'ailleurs une autre mesure qui avait été supprimée en commission. Cette mesure permet la prolongation jusqu'à 120 heures pour la garde à vue des mules. Les mules, c'est le nom donné aux personnes qui transportent de la drogue dans leur corps, pour passer notamment des frontières. Et l'Assemblée a approuvé aussi divers amendements qui durcissent ce texte, malgré l'opposition de la gauche. Par exemple, un amendement de Olivier Marleix, des Républicains, qui instaure une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour les étrangers condamnés à une peine de prison d'au moins 5 ans pour trafic de stupéfiants, avec quand même possibilité d'exemption par décision spécialement motivée du juge, afin de respecter le principe d'individualisation de la peine. Ils ont également approuvé un amendement de Éric Pauget pour créer une circonstance aggravante et alourdir les peines lorsque les infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises en étant en possession d'une arme. Enfin, Éric Pauget a fait aussi adopter un amendement qui sanctionne le fait de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles, et le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a soutenu cet amendement, tout en émettant des réserves, en estimant qu'il faudrait sans doute améliorer l'écriture dans la suite de la navette parlementaire, notamment au regard du respect de la liberté d'expression.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on vient sur du concret, plus proche de chez nous, à Fos-sur-Mer. Ça fait 20 ans que les riverains de Fos-sur-Mer sont en lutte, 6 ans que l'instruction avait débuté. Et bien, comme le révèle le Mediapart, l'entreprise ArcelorMittal, donc un géant de l'acier dont l'entreprise est justement située à Fos-sur-Mer, a été mis en examen ce 19 mars par le pôle environnemental du tribunal de Marseille pour mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux et infraction au code de l'environnement. Tout ça fait suite à une plainte qui a été déposée en 2019 par plusieurs riverains ainsi que des associations de défense de l'environnement. Les multinationales ArcelorMittal auraient ainsi exposé la population du golfe de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône à des rejets de polluants toxiques, quitte parfois à dépasser les seuils autorisés de certains produits cancérogènes. Le géant de l'acier mondial aurait également falsifié certains rapports qui ont été remis aux autorités de contrôle pour falsifier ces infractions. Et ainsi, entre 2014 et 2019, au total, c'est près d'un tiers des polluants qui ont été rejetés, qui nécessitaient un contrôle, qui sont passés hors des radars grâce à ces falsifications. Par manque d'entretien, aussi des infrastructures, des accidents graves auraient eu lieu, explique Mediapart, qui cite par exemple un accident qui a eu lieu entre le 8 et le 9 mars 2022 pendant la nuit, et au cours duquel 75 000 mètres cubes de gaz toxiques et cancérogènes ont fuité dans l'air. Des éléments de cette enquête remettent également en question la défaillance des contrôles de l'État via les services des préfectures. ArcelorMittal enregistre plus de 1 milliard de bénéfices et a reçu au total, depuis 2014, de près de 1 milliard d'euros de fonds publics pour toutes ses usines domiciliées en France.
Je fais « What ?» Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
Et on continue, on termine avec des histoires de pollution industrielle, et cette fois-ci, les PFAS. Toujours les polyfluoroalkylés, je ne sais plus comment on dit, mais bref, vous m'aurez compris, c'est les polluants éternels dont on parle beaucoup en ce moment. Eh bien, figurez-vous que c'est dans l'Oise, l'usine chimique Chemours vient d'annoncer brutalement qu'elle allait fermer. Les salariés demandent que leur exposition aux polluants éternels soit prise en compte. L'employeur, lui, refuse de financer les prises de sang. Ça concerne donc 59 salariés, hein, ils sont tous sonnés par la fermeture surprise de l'usine. Ça rappelle celle de Salindre, plus près de chez nous. Les salariés y fabriquaient des éléments pour mousse anti-incendie, des répulsifs et des produits surfactants. L'actionnaire états-unien de cette multinationale de la chimie a donc surpris tout le monde en décidant de changer brutalement de stratégie commerciale. En effet, Chemours vient d'enterrer un projet de développement dans le domaine de l'hydrogène, pour lequel d'ailleurs il venait de toucher une subvention de 800 000 euros par la région Hauts-de-France. Eh bien non, Chemours plie bagage. Et ce, bizarrement, juste avant que ne se déploie la réglementation sur les PFAS, ces substances donc per- et polyfluoroalkylées, qu'on appelle polluants éternels, et qui sont utilisées dans la production des produits que fabrique cette usine. Avant, donc, l'usine ferme veut plier bagage, en tout cas avant aussi qu'un diagnostic ne soit déclenché sur le risque auquel ses salariés ont été exposés, et aussi sur la pollution de l'eau, de l'air et de la terre tout autour dont pourrait être responsable l'entreprise et qui concerne donc tout le bassin dans lequel elle est implantée. La période de 3 mois de négociation sur le plan social a eu lieu et elle a débuté en fait en secret fin janvier, avant que la nouvelle ne s'ébruite par voie de presse à la fin du mois de février. Les représentants des 59 salariés avaient opté pour une infinie discrétion, sur les termes des pourparlers. Un salarié a dit « Nous sommes dans les négociations, ensuite on parlera, peut-être ». Eh bien, ce 20 mars, ils ont décidé de durcir le ton. Alors, en effet, que les négociations entrent dans leur dernière ligne droite, une grève a été déclenchée, selon le témoignage des salariés, pour réclamer une revalorisation de l'indemnité de départ. Ils considèrent en effet que leur employeur doit prendre en compte le risque auquel ils ont été exposés en manipulant ces produits dangereux au quotidien. Dans un courrier adressé à ses salariés, la direction a tout de suite écarté cette option et a menacé d'ailleurs, faute d'accord signé à la fin de ces fameux 3 mois, d'appliquer un document unilatéral, donc qu'elle déciderait elle-même de son côté, qui ne sera naturellement pas le même sur le plan financier. Voilà un joli petit chantage aux indemnités, quoi. Bravo les négociations secrètes, c'est décidément pas une bonne stratégie pour les salariés, visiblement. Ces salariés, en tout cas, se réveillent et ils demandent que l'employeur finance des prises de sang pour mesurer des éventuelles traces de PFAS dans leur organisme. 2 substances ont déjà été testées auprès de ces salariés ces dernières années, mais maintenant le personnel demande que les tests soient étendus à 20 substances. Ces 20 substances que l'industriel est maintenant obligé de rechercher dans l'eau potable, notamment depuis un arrêté ministériel de juin 2023. Eh bien, cela est refusé par la direction de l'usine Chemours. Les prises de sang sont un enjeu crucial dans toutes ces affaires sur les PFAS, parce qu'elles coûtent cher, entre 150 et 300 euros l'analyse, mais elles sont nécessaires pour pouvoir constituer la preuve officielle qu'un salarié a été exposé à une substance à risque. Cette preuve peut ensuite forcer l'employeur à établir un plan de prévention des risques, ou, si l'activité cesse, eh bien, elle devient indispensable pour faire reconnaître d'éventuelles maladies professionnelles qui se déclarent souvent plusieurs années après l'exposition. Je vous rappelle, pour petite info, hein, que a priori, vous et moi sommes aussi porteurs de PFAS dans le sang. Hein, puisque tous les tests qui ont été faits à l'aveugle sur des populations en France, quel que soit leur lieu de vie ou leur régime, via l'eau potable, a priori, on est tous contaminés, dans des moindres mesures, évidemment, que ces travailleurs d'usine. Et l'article de Reporter, d'ailleurs, c'est dans le Reporter que j'ai trouvé, ça rappelle ensuite justement le cas de l'usine de Salindres dans le Gard, où les salariés donc, de cette autre usine de PFAS, avec là aussi une fermeture annoncée brutalement en octobre 2024, eh bien, demandent également des prises de sang et un biomonitoring que leur refuse là aussi la direction du groupe Solvay. Du côté de la loi, c'est les tout débuts hein, en matière de protection des travailleurs exposés aux PFAS. Alors, dans le Code du travail, il est prévu que tout risque chimique doit être évalué et faire l'objet d'un plan de prévention sur mesure. Et la médecine du travail, qui est en manque cruel de moyens humains, est également censé normalement inscrire au dossier médical toute la liste des substances auxquelles un salarié est exposé, et la médecine du travail peut déclencher un suivi médical post-exposition quand elle estime nécessaire. Mais souvent, les moyens ne suivent pas, et donc, dans les faits, c'est très rarement appliqué. Et en plus, sur le cas spécifique de ces perfluorés, donc qui sont assez nouveaux dans le débat public, eh bien les fameux seuils d'exposition, les seuils maximum auxquels vous avez le droit d'être exposé quand vous travaillez, eh bien ces seuils n'ont pas été réévalués depuis la découverte de l'ampleur de la pollution ces dernières années. Des travaux sont en cours là-dessus, notamment dans le cadre du plan interministériel sur les PFAS, mais en attendant ce résultat, le flou domine, il n'y a pas de chiffres officiels sur lesquels s'appuyer, sauf des chiffres qui sont complètement hors circuit aujourd'hui au vu de la réalité. On en est donc au tout début de la prise de conscience des spécificités de ces polluants. La connaissance scientifique sur les quelques 12 000 molécules que ça recouvre se renforce petit à petit. Deux PFAS d'ailleurs ont déjà été reconnus cancérigènes et interdits ou restreints, c'est le PFOA et le PFOS. Et le caractère de manière générale de perturbateur endocrinien des PFAS est de mieux en mieux documenté, avec notamment à la clé les risques d'infertilité, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, de maladies de la thyroïde ou du cholestérol. Si on revient à cette usine de Chemours dans l'Oise, voici ce que dit la secrétaire régionale CGT de Rhône-Alpes, Agnès Naton, qui connaît bien le problème, puisque vers Lyon, ils ont beaucoup de chimie aussi. Les salariés ont été massivement exposés, c'est une véritable boîte de Pandore. C'est pour cela qu'il faut absolument établir la responsabilité de l'employeur. Cela devrait tomber sous le sens, car elle est en théorie inscrite dans le Code du travail, mais nous devons mener une vraie bataille, car le lobbying de l'industrie chimique est très puissant. Le départ de l'usine de Chemours soulève également une montagne de questions quant à l'ardoise environnementale, donc la dette que va laisser l'usine derrière elle. Ces entreprises sont extraordinaires. Dès qu'on montre les rejets, elles ferment et elles délocalisent. Elles agissent avec la même désinvolture pour les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Or, nous ne connaissons pas aujourd'hui l'ampleur réelle de la pollution. Le travail du diagnostic et de dépollution ne doit pas être à la charge de la collectivité, dénonce François Veillerette de l'association Génération Future, qui a elle-même procédé à des prélèvements dans la région et qui fait un gros boulot sur cette question-là. Après avoir constaté donc la présence de PFAS dans l'eau et dans la terre, l'ARS de l'Oise, l'Agence Régionale de Santé, appelle par précaution la population à ne consommer ni les poissons sur une dizaine de kilomètres en aval de Creil, la ville de Creil, ni les œufs prélevés dans Villers-Saint-Paul et la commune limitrophe de Verneuil en Halatte. Donc pas de poissons et pas d'œufs des poules. Il est également déconseillé d'utiliser l'eau des puits pour l'arrosage des potagers. Voilà, sympa pour le voisinage. La loi, normalement, prévoit que l'entreprise qui cesse une activité dépollue elle-même son site. Pour ce qui est des zones polluées alentour, l'État devra déterminer la responsabilité de la société Chemours, qui intègre une plateforme chimique avec plusieurs autres usines. Contactée par le journal Reporter, ni la préfecture de l'Oise, ni l'inspection du travail n'ont souhaité pour l'instant communiquer sur ce dossier.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
C'est tout pour les nouvelles du monde de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, comme on a quelques minutes encore, on va s'écouter un peu de musique. Et j'avais envie de punk ce matin, donc je vous propose le morceau Poker Time. J'ai oublié le nom du groupe, mais écoutez, si vous tapez Poker Time, vous devrez le retrouver. Et puis voilà, et puis je vous dis tout de bon week-end, et puis portez-vous bien. Voilà, c'était House of Dromedar. J'ai retrouvé le nom du groupe avec ce morceau Poker Time. Allez, ciao, ciao.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.